Ne vous laissez pas abattre, on ne peut pas toujours contrôler tout et la douceur ambiante est agréable. Cancer, vous obtenez très facilement ce que vous voulez, même si vous ne savez pas vraiment comment vous y êtes arrivé. Lion, aucun souci budgétaire ne vient contrarier vos plans. Faites ce qu'il vous plaît. Vierge, il y a du changement dans l'air, voire davantage de liberté. Votre dynamisme bat son plein et vous donne de l'enthousiasme. Balance, vous êtes au mieux de votre forme et votre pouvoir de séduction s'en trouve renforcé. Le septième ciel n'est pas loin. Scorpion, une journée telle un cadeau de votre destin. Vivez-la intensément. Ceci est valable pour vous, mais aussi pour votre bien-aimé. Sagittaire, vous avez l'art et la manière de transformer le plomb en or, mais faites attention et contrôlez tout acte que vous auriez à signer. Capricorne, le ciel dope vos potentiels, votre énergie et votre morale. De plus, vous allez vous refaire une santé financière grâce à votre réseau social. Verseau, cette journée est parfaite pour faire une pause. Prenez soin de vous et rattrapez le retard de sommeil. Poisson, proposez votre collaboration ou votre aide. Aujourd'hui, tout le monde est plus disposé à vous écouter, à s'aider, à s'adapter et à vous tolérer.
Merci beaucoup, Bénédicte.
La météo Sud Radio.
6h01 sur Sud Radio, l'heure de retrouver Rémi André. Bonjour Rémi.
Bonjour Maxime, bonjour tout le monde.
La météo de ce mardi matin, bon, il est où le soleil? Il est où?
Ah ben, pour l'instant, il n'est pas encore tout à fait levé, mais ça ne va pas tarder. Bon. Mais on en verra un petit peu. Si vous allez à Strasbourg, par exemple,
d'accord,
ben, il y aura du soleil et il pourra même y faire 26 degrés.
Ah oui,
c'est là, sur l'Alsace, qui pourra faire le plus chaud aujourd'hui. Même à Ajaccio aujourd'hui, avec les nuages, on n'arrivera pas à 23 à 24 degrés. Donc vous voyez que sur l'Alsace, vous aurez un petit peu de soleil. Vous en aurez également un petit peu entre la Normandie, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, donc dans la matinée, un petit peu de soleil, mais dans l'après-midi, ce soleil va réveiller quelques gros cumulus qui pourraient apporter des averses. Alors, des averses, on en aura encore aujourd'hui, depuis le Languedoc, le Midi Toulousain, jusque vers le bassin parisien, les Ardennes, dans tout ce secteur, nous aurons droit à des averses, voire des orages en cours d'après-midi. Et puis, il y a cette petite perturbation qui donne actuellement quelques gouttes sur la Bretagne, mais elle va glisser dans l'océan pour donner, dans la soirée, quelques orages sur la côte aquitaine.
Merci beaucoup Rémi. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio, il est 6h02.
Parlons vrai.
Tout de suite le journal avec Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité, Mathis, 16 ans, tué à l'arme blanche à Châteauroux. L'auteur des coups de couteau mortels et sa mère ont été mis en examen.
Gérard Depardieu devant les juges en octobre prochain pour agression sexuelle. L'acteur a passé plusieurs heures hier en garde à vue.
Le mouvement pro-palestinien gagne du terrain après Sciences Po Paris et la Sorbonne. Des manifestations sont prévues aujourd'hui en région.
Enfin, de la pluie dans les Pyrénées-Orientales. Après 2 ans de quasi-sécheresse, les agriculteurs peuvent respirer.
On commence donc avec Gérard Depardieu. L'acteur accusé d'agression sexuelle sera jugé en octobre prochain.
Le comédien de 75 ans a passé la journée d'hier en garde à vue, Jules Boscherini, pour des faits qui se seraient produits sur plusieurs tournages.
C'est une décoratrice de l'équipe du film Les Volets Verts, réalisé par Jean Becker, qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel particulier à Paris en septembre 2021. La victime a déposé plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Selon son témoignage recueilli par Mediapart, l'acteur aurait tenu un grand nombre de propos graveleux durant le tournage. Il l'aurait aussi attrapé avec brutalité, pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. L'autre plainte est portée par une ancienne assistante de tournage. Elle accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle en 2014. Âgée de 24 ans au moment des faits, elle souhaite rester anonyme. Sa plainte a été déposée le 9 janvier et dénonce des propos obscènes prononcés au domicile de l'acteur à Paris. Au total, 5 plaintes pour agression sexuelle et viol ont été déposées contre Gérard Depardieu. L'une d'entre elles a été classé sans suite pour prescription.
Et Gérard Depardieu a déjà été mis en examen, on le rappelle, pour viol depuis 2020. Dans une autre affaire, l'acteur avait, de son côté, affirmé en 2023 n'avoir jamais abusé d'une femme.
L'adolescent suspecté dans la mort de Mathis à Châteauroux, il a été mis en examen et écroué pour meurtre.
Cet adolescent de 15 ans d'origine afghane en situation régulière en France est suspecté d'avoir donné des coups de couteau mortels à l'autre adolescent, Mathis, âgé de 16 ans. Les deux mineurs se connaissaient, ils s'étaient réciproquement insultés avant la rixe mortelle, selon la procureure. Mathis aurait préféré des insultes racistes lors d'un rap improvisé. Les deux jeunes en sont ensuite venus aux mains. L'agresseur présumé est retourné chez lui chercher un couteau. Sa mère, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Des témoins affirment qu'elle a giflé Matisse après les coups de couteau, d'autres qu'elle a tenté de le réanimer.
On y reviendra dans vos éditions à 7h et à 8h, Laurie. La région Île-de-France, de son côté, suspend les financements à Sciences Po Paris après des mobilisations pro-palestiniennes.
Sa présidente Valérie Pécresse annonce sa suspension tant que la sérénité et la sécurité ne sont pas rétablies dans l'université. Le mouvement a gagné hier du terrain, l'université de la Sorbonne, où les militants ont été évacués par les forces de l'ordre. L'un de ses étudiants nous explique le but de cette occupation.
L'objectif, c'est d'envoyer un message, un peu comme ce qui s'est passé à Yale, à Columbia, à Sciences Po. Il y a aussi un objectif politique derrière, bien évidemment. Cet objectif, il est de montrer et de dénoncer le génocide qu'on voit sous nos yeux, mais au-delà de ce génocide, on dénonce aussi la complicité active de notre gouvernement en continuant à vendre des armes, en continuant en fait à donner un soutien inconditionnel avec des gros guillemets quoi à l'État israélien. Et ça en fait c'est pas possible pour nous, c'est inadmissible même et c'est dégueulasse.
Les explications de cet étudiant de la Sorbonne au micro Sud Radio de Thomas Ranou. Mobilisation qui gagne également des universités en région, par exemple du côté de Lyon ou bien de Bordeaux.
Les deux élus de la France Insoumise, Mathilde Panot et Rima Hassan, entendus aujourd'hui par la police.
Elles sont auditionnées dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme après des propos et un communiqué sur la guerre entre Israël et le Hamas. Le parti, la France Insoumise, appelle à un rassemblement de soutien ce matin à 8h30 devant le tribunal de Paris et les locaux de la police judiciaire.
Le projet de loi d'orientation agricole arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale.
Réponse à la colère agricole. Il sera ensuite discuté dans l'hémicycle de l'Assemblée dès le 14 mai. Emmanuel Macron recevra, lui, les syndicats agricoles après-demain. Le but, selon l'Élysée, évoquer les perspectives de l'agriculture française et européenne.
De l'eau, enfin, dans les Pyrénées-Orientales, les agriculteurs se réjouissent après 2 ans quasiment sans voir une goutte d'eau.
Et oui, les Catalans ont vu le retour de la pluie depuis dimanche. Le département qui vit donc une sécheresse record, Christine Bouillot. Alors aujourd'hui, tout le monde a le sourire.
Les plus heureux depuis dimanche et le retour de cette pluie, ce sont les agriculteurs.
Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Chantal Campos, elle est arboricultrice et maraîchère.
C'est une pluie qui pénètre bien, qui fait du bien aux arbres. Et ça faisait presque 2 ans qu'ils n'avaient pas vu une goutte d'eau, ces arbres. Nous, on a quelques arbres qui, les plus âgés, qui ont pas résisté.
Depuis 2 ans, tous voyaient se former les nuages, les promesses de pluie, et puis plus rien, balayé par le vent de la tramontane. Ces averses sont donc une bouffée d'oxygène en cette période de printemps. Bruno Villa, il est président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales.
Parce que là, on commence à rentrer dans une situation compliquée pour envisager les semaines à venir. C'est un soulagement d'avoir de l'eau, c'est quelque chose qu'on apprécie.
Malgré tout, cette pluie ne va pas rattraper 2 années de sécheresse consécutive. Jean Huchier, il est hydrogéologue.
Cette situation qui est le résultat de 2 années sèches de suite, il faudrait un cumul pluviométrique prolongé pour vraiment inverser la situation. Aujourd'hui, la situation des nappes, par contre, reste dans un état grave.
Cette pluie ne permettra pas de rattraper 2 années de sécheresse. Le département reste toujours en situation de crise.
Et les explications de Christine Bouillot.
Si ce n'est pas encore fait, vous n'avez plus que quelques heures. Date limite demain pour s'inscrire sur la liste électorale.
Et demain en ligne jusqu'à vendredi en mairie pour pouvoir voter le 9 juin prochain aux élections européennes, alors que plus d'un Français sur deux n'aurait pas l'intention de se rendre aux urnes selon notre dernier sondage Info Fiducial pour Sud Radio. Alors Loïc Kergorlet, les Français vont-ils bouder ces élections?
Pour Gilbert, 87 ans, c'est simple, il ne se rendra pas aux urnes le 9 juin prochain.
Parce que les uns comme les autres, c'est des bons riens. Enfin, qu'il y ait quelqu'un, Superman, qui arrive, mais je vois pas qui, même du côté de la gauche comme de la droite, de tout ce que vous voulez, moi je vois personne.
Théo, 27 ans, lui, hésite, mais ne semble pas encore convaincu.
Ah, c'est vrai que les choix, ils font pas toujours envie. Soit ils sont controversés, soit c'est une catastrophe. Et après, les gens, des fois, ça les saoule un peu. Je vais voir un peu les candidats qu'il y a, je vais voir ceux qui peuvent m'intéresser le plus.
Une attitude que comprend Thibault, même si lui se rendra bien aux urnes.
Je conçois que beaucoup de gens s'intéressent à aucune élection parce que on est truffé de gens qui n'appliquent pas ce qu'ils décident et leurs promesses.
De quoi laisser espérer un léger sursaut selon Frédéric Dabi de l'Institut IFOP.
C'est le seul scrutin national du quinquennat après cette présidentielle qui a frustré beaucoup de Français, ça donne envie de voter. D'autre part, la logique de vote sanction contre le gouvernement, contre le président Macron, peut inciter beaucoup de Français à se déplacer aux urnes.
Le taux d'abstention mesuré actuellement est entre 5 et 6 points inférieur par rapport aux européennes de 2019.
Les précisions de Louis de Kergorlech.
Pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone avant 11 ans, les recommandations d'experts remises aujourd'hui au gouvernement.
La commission écran demandée par Emmanuel Macron préconise également de limiter l'usage du téléphone pour les adolescents après 11 ans. Ce rapport appelle également à mieux paramétrer le contrôle parental et demande à lutter contre le fil de déroulement infini qui a sur certaines applications et le lancement automatique de vidéos.
Une nouvelle grève annoncée dans l'aérien au moment du pont de l'Ascension.
Et cette fois-ci, ce sont les hôtesses et stewards de la compagnie Vueling qui annoncent se mettre en grève du 8 au 12 mai prochain. Les employés de la compagnie espagnol qui annonce un préavis reconductible pour mai et juin.
On en vient à cette question à 6h10 sur Sud Radio. Quel est le point commun entre le masculinisme, le platisme ou encore une détox ?
Réponse, ces mots font tous leur entrée dans le nouveau dictionnaire Larousse. Alors Félix Mathieu, l'édition 2025 comptabilisera au total 64 300 mots.
Les éco-gestes et les méga-bassines font leur entrée dans le dictionnaire, tout comme les zones à faible émission. Pas mal de nouveaux verbes aussi. Mentorer quelqu'un, par exemple, c'est le fait de devenir son mentor via une collab, pourquoi pas, oui, ça aussi, c'est un nouveau mot. Les équipes de Larousse sont à l'affût, en fait, de l'actualité des usages, raconte Karine Girac, directrice du département langue française.
On repère à peu près 5000 nouveaux mots chaque année, et nouveaux sens, et on va appliquer deux critères, un critère quantitatif. Pour rentrer dans le dictionnaire, le mot doit être très très utilisé, on parle de millions ou de milliers d'occurrences, et puis un critère qualitatif, le fait que le mot soit partagé. Il faut que toutes les générations puissent l'utiliser, ou en avoir entendu parler, et que toutes les catégories socio-professionnelles le puissent aussi. Donc les médias généralistes nous aident à faire ce choix qualitatif.
Les anglicismes ne sont pas interdits. Vous pouvez vous rendre au skatepark après avoir couru un ultra-trail du côté des noms propres font leur entrée. La militante iranienne Narges Mohammadi ou encore côté sport, deux Antoine, tiens, Griezmann et Dupont.
Les explications de Félix Mathieu.
Ah bah tiens, Antoine Dupont, justement, il fait l'actualité ce matin puisqu'il délaisse le temps d'un film. Hein, rassurez-vous, supporter toulousain, le maillot justement du Stade Toulousain.
Avec ses coéquipiers, Anthony Jelon et Paul Graou, ils vont porter les couleurs du RC Auch. Pourquoi ? Parce que c'est leur ancien club, là où ils ont fait leur formation, et c'est justement le temps d'un film publicitaire qui promet cette formation Made in Auch.
C'est plutôt pas mal. Allez, on termine avec le football, cette fois-ci le début des demi-finales de la Ligue des Champions.
Et oui, premier match aller ce soir de demi-finale des Ligue des Champions, c'est le Bayern Munich qui reçoit le Real Madrid à 21h avant demain le choc Dortmund-PSG.
Avant les matchs retour, ce sera rapide puisque ce sera la semaine suivante.
Exactement.
La semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurie Leclerc. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
On vous retrouve à 7h, Laurie, avec Patrick Roger pour un nouveau point sur l'actualité. Patrick, que l'on retrouve dans une vingtaine de minutes désormais pour la suite de cette matinée. Place ensuite, vous le savez, à 6h30 au grand matin. On parlera notamment, tiens, tout à l'heure à 7h10 de la grippe aviaire. Et oui, pourquoi l'OMS s'inquiète-t-elle de la transmission entre humain. On en parlera avec un professeur de virologie au CHU de Lyon. En tout cas, merci d'être avec nous tout de suite dans hashtag on en parle, les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Et on parle de la ville de Toulouse, tiens, avec cette question, est-elle, je cite, « perpétuellement dégueulasse ». C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le maire de Pau, François Bayrou, avant de s'excuser. Alors en fait, je vous raconte tout ça, tout est parti d'une phrase prononcée lors d'une réunion sur des travaux d'aménagement de la ville de Pau, lorsqu'un habitant présent compare la propreté de sa ville à Bordeaux ou Toulouse. François Bayrou répond alors « Toulouse, c'est une ville perpétuellement dégueulasse ». Cette phrase relatée par nos confrères de la République des Pyrénées n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Réponse de Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, plutôt diplomate.
J'ai très, très très surpris et donc j'ai tout de suite contacté François Bayrou qui m'a avoué que c'était pas sa pensée, qu'il s'était laissé emporter dans une réunion. Voilà, après je lui ai quand même dit qu'il pouvait venir. Je lui ai dit viens à Toulouse, tu verras, etc. Mais bon, il était confus, je crois, de la saillie qui a été la sienne. Toulouse est une ville parmi les plus grandes villes de France qui est une des plus propres. Et depuis plusieurs années, on a amélioré la propreté. Alors évidemment, je ne donnerai pas 20 sur 20 à la ville de Toulouse, mais enfin quand même, je crois qu'il a eu un coup de sang. Voilà, parfois François s'énerve.
Voilà, parfois François s'énerve et sait reconnaître ses torts. Il a appuyé ses excuses d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter, François Bayrou, mais il a rejeté tout de même un peu la faute sur ce fameux habitant de Pau. Hein. J'étais exaspéré, par un contradicteur de mauvaise foi, mais ce n'est pas une excuse. Amitié à Jean-Luc Moudinque et à Toulouse, a tweeté François Bayrou, tout est bien finalement qui finit bien, ça vaut même un repas. Tiens, commente d'ailleurs sur les réseaux sociaux un tweetos. Allez, 6h14, dans un instant, on va retrouver Pierre Chasseret pour Ça roule. On va parler notamment des radars automatiques avec ces chiffres qui viennent d'être révélés sur l'année 2023. Restez bien avec nous. À tout de suite.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Prades.
105.7.
Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Est-ce qu'on marche sur la tête dans la préparation des JO de Paris? La répétition de la cérémonie d'ouverture est reportée à cause de la crue de la Seine, parce que le niveau du fleuve est trop haut pour assurer normalement le passage des ponts. Après la baisse de moitié de la jauge des spectateurs et beaucoup de remises en cause, on ne peut pas dire qu'on marche sur l'eau pour la préparation de ces JO de Paris.
Sud Radio parle vrai. Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Maxime Trouleau.
À 6h15 sur Sud Radio, place au rappel des titres. Et Gérard Depardieu jugé en octobre prochain pour 2 agressions sexuelles présumées sur un tournage en 2021. L'acteur déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire a passé la journée d'hier en garde à vue. L'auteur présumé de l'agression mortelle de Mathis, 16 ans, à Châteauroux, mis en examen, écroué pour meurtre. Sa mère âgée de 37 ans a elle aussi été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Des insultes racistes seraient à l'origine du drame. La région Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po Paris après des manifestations pro-palestiniennes. Mouvement qui a gagné la Sorbonne. Hier, des militants ont été évacués par les forces de l'ordre. Nouveau rassemblement universitaire prévu aujourd'hui à Lyon ou encore à Bordeaux. Le projet de loi d'orientation agricole arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Le président de la République, Emmanuel Macron, annonce recevoir les syndicats agricoles après-demain, le 2 mai. L'autoroute A13 réouvrira le 11 mai prochain, uniquement en direction de Paris. L'axe est totalement fermé depuis le 18 avril dans les Hauts-de-Seine à cause de fissures sur la chaussée. Et puis en football, début des demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid à 21h avant le match. Choc demain entre Dortmund et le Paris Saint-Germain.
Sud Radio, ça roule.
Pierre, je le disais tout à l'heure, nous avons donc ce matin les chiffres des recettes des radars automatiques en France sur l'année 2023.
Bon alors, on n'a pas battu le record de 2017, mais on n'en est pas loin. 825 millions d'euros collectés en 2017. Il faudra du côté de l'État se contenter de seulement 750 millions d'euros pour les recettes des radars en 2023. Eh, c'est quand même une sacrée augmentation. Plus 5,7% par rapport à 2022. C'est l'inflation, ça doit être comme ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, les radars automatiques n'ont quasiment jamais rapporté autant d'argent à l'État. 2023, c'est la deuxième meilleure année en termes de rentabilité économique pour le ministère de l'économie et des finances.
Bon Pierre, qu'est-ce qui explique une telle rentabilité ?
Ah ben on a renouvelé le parc radar, on a mis en place des radars tourelles. Ils font mal ceux-là, mais ceux qui font le plus mal, vous savez, c'est ceux qu'on appelle les radars mobiles, ou alors, plus d'un autre nom, les radars chantiers, qui sont pas là forcément sur des chantiers. Vous savez, ces boîtes qui changent d'endroit, on sait jamais véritablement où elles sont, et puis elles sont, allez, souvent posées à des endroits où malheureusement on peut être au-dessus pour quelques kilomètres heure de trop. Sauf que la sanction, alors certes, pour les excès entre 1 et 5 km heure au-dessus, on ne perd plus le point, oui, mais vous perdez l'argent. Et tout ça contribue à faire qu'aujourd'hui, 2023 a été, je le rappelle, la deuxième année la plus rentable pour les radars automatiques. Et quid de 2024 ? Mon petit doigt me dit que là aussi, je ne sais pas si ça sera pour les Jeux Olympiques, mais 2024 peut jouer la médaille d'or.
Ah ben écoutez Pierre, on en reparlera dans une année, on prend rendez-vous. Merci beaucoup Pierre.
Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André.
6h18 sur Sud Radio, on va retrouver Rémi André. Bonjour Rémi.
Bonjour Maxime.
Bon si Rémi, vous avez l'habitude de nous parler de la pluie ce matin, vous nous parlez des pluies gélatineuses. Eh oui, hein, de tout temps, des observateurs ont décrit dans l'histoire des pluies gélatineuses, transparentes ou même colorées. Le phénomène a souvent été attribué d'ailleurs à un événement paranormal ou bien une expérience interdite. Rémi, qu'est-ce qu'on appelle les pluies gélatineuses ?
Alors, la pluie gélatineuse est une substance gélatineuse, comme son nom l'indique, présente dans les folklores occidentaux. Ah. La pluie peut parfois prendre une apparence surprenante. Elle peut être jaune ou orange lorsque les précipitations se mélangent à un nuage de sable ou bien rouge sang lorsqu'une algue spécifique se retrouve propulsée dans l'air lors de vents violents. Mais certains ont pu observer autre chose, une pluie tombant sous forme de gélatine, autrefois connue sous le nom de gelée lunaire ou gelée stellaire. Elle est censée se trouver sur de l'herbe ou même sur les branches des arbres à la suite de pluies de météores. Elle est décrite comme une gelée translucide ou blanc grisâtre qui a tendance à s'évaporer peu de temps après être tombée. Des explications variées de ce que pourrait être cette matière ont été données. Alors on dit parfois des restes de grenouilles, de crapauds, des vers, sous-produits de cyanobactéries et même diverses explications paranormales. Les témoignages de l'existence de cette substance datent du XIVe siècle pour les plus anciens et ont continué d'être rapportés jusqu'à nos jours.
Bon Rémi, sait-on expliquer ce phénomène qui a l'air si mystérieux ?
Alors, ce phénomène n'est pas une légende, il est bien réel, mais son origine est souvent décevante pour ceux qui s'attendait à une explication surnaturelle. La pluie sous forme de gel peut avoir plusieurs origines. Des champignons, tout d'abord, c'est l'explication la plus courante des pluies gélatineuses. Plusieurs espèces de champignons, comme les myxomycètes, ressemblent à de la gélatine blanche, souvent rougeâtre, lorsqu'ils sont gorgés d'eau par la pluie. Ils dégoulinent alors le long des arbres, des bancs ou des murs. L'espèce était parfois déjà là avant, sans avoir été remarquée, car elle était sèche. Il y a aussi une algue. Lors de fortes tempêtes ou phénomènes météo tourbillon, les vents transportent parfois des algues issues de la mer. Le nostoc est une algue qui se gonfle d'eau lorsqu'elle est transportée dans une averse et retombe au sol. Elle donne alors lieu à des filaments gélatineux blancs qui peuvent être retrouvés dans les rues des villes côtières.
Bon, il ne s'agit donc pas d'expériences malheureuses comme on le dit parfois.
Ah, je suppose que vous faites référence à un phénomène souvent relaté sur Internet. En effet, la pluie gélatineuse la plus célèbre est celle de Oakville, l'état de Washington, aux États-Unis. Plusieurs pluies de gélatine sont tombées sur la ville en l'espace de quelques semaines. Il y a 30 ans, en août 1994. Des animaux seraient morts de manière inexpliquée et de nombreux habitants auraient attrapé un étrange virus respiratoire que beaucoup ont attribué à une expérience de l'armée. Aucune analyse concluante de la gelée n'a été officialisée et le mystère n'a toujours pas été élucidé.
Mystère. Merci beaucoup Rémi André, vous retrouve dans une dizaine de minutes pour nous parler de la pluie, cette fois-ci de l'eau. Hein, et pas rien de gélatineux, évidemment, pour la météo de ce mardi matin. Tout de suite, on va retrouver Philippe David, tiens, pour Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Nous sommes en compagnie de Titien Bartement, président de la Petite Ambassade. La Petite Ambassade, c'est une boulangerie artisanale à fermentation lente. Elle a ouvert à Aulette, dans les Pyrénées-Orientales, le 11 mars dernier. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous tout d'abord, Titien Bartement, nous présenter votre activité ?
Eh bien, je suis boulanger, je fais du pain et dérivés. Et en fermentation lente, du coup, je travaille en 24 heures minimum de fermentation. Donc la pâte, je la fais au moins la veille. Et je vais jusqu'à 144 heures, donc 6 jours avant pour certains pains.
Alors, c'est quoi la fermentation lente ? On a compris que c'était plus lent, mais quelle est la pratique et quel est surtout le but ?
Bah, le principe, si vous voulez, c'est de faire en sorte que quand vous faites votre pâte, le pH tombe suffisamment bas, donc l'acidité soit suffisamment importante, pour aller casser les chaînes du gluten. Le gluten qui rend la digestion difficile. Et donc, si vous voulez, le but du jeu, c'est de tomber le pH suffisamment pour casser ce gluten et rendre la digestion possible. Et au-delà de 24 heures, grosso merdo, avec la façon dont je travaille, au-delà de 24 heures, vous allez chercher les arômes de la farine.
Et le maximum, c'est 6 jours, c'est ça, notamment pour le pain de campagne ?
Avec la façon dont je travaille, oui, je vais jusqu'à 6 jours. Ça pour aller au-delà, mais ça rend le pain moins panifiable, si vous voulez.
Ça ne pose pas des problèmes de stockage, parce qu'il faut de la place pour stocker 6 jours
Bah, vu que je suis en début d'activité, c'est pas un gros problème. J'ai une chambre froide qui est suffisamment grande. Mais c'est sûr que si je développe l'activité, il va falloir se poser des questions d'espace, oui.
Vraie question. Alors, vous êtes ouvert depuis maintenant presque 2 mois. Les clients sont vraiment sensibilisés à cette nouveauté qui est la fermentation lente?
Bah, écoutez, les retours que j'ai, moi, de la clientèle, c'est que leur transit a changé depuis qu'ils mangent ce pain-là. Ils ont plus des problèmes de pic de glycémie.
Oui.
Après avoir consommé ce pain-là.
Notamment pour les personnes diabétiques.
Voilà. Plus de problèmes de digestion, plus de problèmes de ballonnement, et surtout un pain qui a du goût, quoi, et du caractère.
Alors, on parle souvent des difficultés des boulangers. Vous, ça se passe bien ce début, malgré, on parle en particulier des prix de l'énergie, etc. Vous faites votre pain comment, à l'électricité, au feu de bois ?
Je travaille à l'électrique sur un, je sais pas, je citerai la marque. Je travaille sur un bon gars.
Oui, marque connue de four de boulangerie, oui.
Voilà.
Marque française donc, d'ailleurs.
Marque française, oui. Et si vous voulez, donc je travaille sur un bon gars dernière génération. Ils sont très peu énergivores. J'ai appris à optimiser la façon dont je travaille au four, donc je limite ma consommation. Mais quand bien même, le coût d'une baguette au réel n'est pas non plus monumental, quoi. Même si l'énergie est montée. Le tout, c'est de savoir optimiser ses moments au four et c'est son cycle pour faire en sorte de dépenser le moins.
Pour vous, Titien Bartement, la boulangerie, c'est une reconversion et un peu un retour aux sources dans les Pyrénées ?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être boulanger et pourquoi ce retour aux sources ?
Moi, en gros, j'ai fait des études de chinois à l'université.
Oui.
Donc, j'ai quitté Perpignan pour aller à Montpellier à l'université. J'ai fait étudier le chinois et la géographie. Puis, je me suis lié d'amitié avec un monsieur qui est chinois. Enfin, un ami, on a à peu près le même âge à l'époque. Et j'ai commencé à travailler avec lui à l'export de tout ce qui était vin. Et puis, avant le Covid, on s'était intéressé à l'export de bois. Et le Covid a fait que le coût de l'export est monté en flèche.
Oui.
Donc, j'ai fait un gros burn-out avec le Covid. Et je suis reparti me mettre au vert dans la maison de famille.
Dans les Pyrénées, à Aulette.
Exactement.
Merci beaucoup, Titien Bartement, président de la petite ambassade, une boulangerie artisanale à formatation, lente. C'est à Aulette, dans les Pyrénées-Orientales, et on vous souhaite tout le plus grand, tout le meilleur succès.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Merci beaucoup Philippe David, on vous retrouve tout à l'heure ce soir à 17h avec Cécile de Minibus pour vos vraies voix. 6h25, dans un instant on va retrouver Patrick Roger pour le Grand Matin avec les questions du jour sur nos réseaux sociaux. Tiens, je vous en parle maintenant puisqu'on parle notamment de la lutte contre la violence des jeunes. On revient notamment sur ce meurtre du côté de Châteauroux, cet enfant de 16 ans qui est mort notamment avec un jeune présumé, en tout cas, qui serait d'origine afghane. Et on en parle ce matin puisqu'on parle des mineurs. Les mineurs doivent-ils être jugés comme les majeurs ? C'est la question que l'on vous pose sur notre compte Twitter. Pour le moment, vous nous dites oui, un grand oui à 83%. Et puis notre autre question du jour sur Twitter, on parle cette fois-ci de Sciences Po Paris et cette décision de Valérie Pécresse qui suspend les financements de la région après les manifestations pro-palestiniennes. Mais qu'en pensez-vous ? On vous pose la question, on vous a donné 4 possibilités de réponse. Vous êtes assez divisé, mais vous nous dites plutôt que c'est une bonne décision. Pour 51% d'entre vous, 31% trouvent ça scandaleux, 11% c'est logique, 7% c'est exagéré. Vous voulez nous en parler, vous laissez un commentaire, vous nous appelez, vous le savez, au 0826 300 300. Dans un instant, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier du côté de l'hippodrome de Fontainebleau. On fera un point sur la météo du jour avec Rémi André, et puis le journal avec Marie Dompère à 6h30. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après, les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on en laisse faire et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins et le surlendemain, à leur mettre une baffe et le sur-surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure.
Sud Radio, parlons vrai.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis pis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis pis. Pour donner des soins, j'agis. Pour préparer ma retraite, j'agis pis. Pour mon logement, j'agis. Pour assurer mon emprunt.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AGP, vous êtes assuré et associé.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio.
Allez, on passe au pronostic hippique de Jean-Paul Delperrier. Le quintet, ce mardi du côté de l'hippodrome de Fontainebleau, avec les préférés de Jean-Paul, le 15, le 4, le 6, le 2, l'As, le 10, le 3 et le 16. Je récapitule, le 15, le 4, le 6, le 2, l'As, le 10, le 3 et le 16. Des pronostics à retrouver sur sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
6h28 sur Sud Radio, on va retrouver Rémi André pour la météo du jour et le soleil qui se fait attendre, Rémi.
Mais effectivement, alors du soleil, on en trouvera un petit peu hein, sur la partie est du pays, notamment sur l'Alsace, où là, le soleil permettra aux températures de grimper jusqu'à 25 à 26 degrés. On pourrait même localement dépasser les 26 degrés, donc sur l'Alsace. Sur la partie est, mais plus au sud, des nuages sont là sur la Provence, sur la Côte d'Azur, ainsi que sur la Corse. Et là, les températures seront limitées entre 22 et 24 degrés. Alors, nous avons également cette perturbation qui traîne depuis deux jours, une perturbation que l'on retrouve depuis la Méditerranée jusque vers le midi toulousain, remontant vers le Limousin, l'Auvergne. Et maintenant, elle arrive sur l'est parisien, elle va continuer de grimper en direction des Ardennes. Donc sur cet axe qui va nord-sud, depuis les Hauts-de-France jusque vers le Languedoc, eh bien les averses prendront même un caractère orageux en cours d'après-midi. Et là, les températures seront limitées à 19 degrés à Paris ou à Toulouse. Et on ira jusqu'à 20 degrés tout de même, 22 degrés du côté de Marseille. Et puis sur la partie ouest du pays, certes nous avons une perturbation qui va arroser la Bretagne aujourd'hui, mais elle va descendre pour juste donner quelques averses orageuses dans la soirée sur la côte aquitaine. Et là, les températures, si elles ne dépassent pas 13 degrés à Brest sous la pluie, atteindront tout de même les 22 degrés à Bordeaux ou à Biarritz.
C'est plutôt agréable. Merci beaucoup Rémi André. Et merci de votre fidélité à l'écoute de Sud Radio. Il est 6h30.
Parlons vrai.
Avant de retrouver Patrick Roger pour le Grand Matin, place au journal de Marie Dompère. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Mettre fin à la transmission transgénérationnelle de la violence. 5 ans après la loi anti-fessée, une campagne est lancée aujourd'hui à l'occasion de la journée de la non-violence éducative. L'État au secours d'Atos, le gouvernement est prêt à racheter le groupe d'informatique français, très impliqué notamment dans les activités militaires. Et puis, va-t-on encore avoir très chaud cet été ? Il y a des chances, selon Météo France. L'adolescent de 15 ans, soupçonné d'avoir tué à coups de couteau le jeune Mathis samedi à Châteauroux, a été mis en examen et écroué hier soir. Sa mère a elle aussi été inculpée pour violence volontaire sur personnes vulnérables. Elle aurait giflé la victime après les coups de couteau portés par son fils. Les problèmes de violence chez les jeunes au cœur d'une série de réunions à Matignon. Depuis hier, Gabriel Attal reçoit les parlementaires afin de pouvoir présenter des mesures concrètes avant l'été. Des violences qui peuvent intervenir aussi à la maison, 5 ans après l'adoption de la loi dite anti-fessée. L'association Stop aux violences éducatives ordinaires lance une campagne pour mettre fin à ces punitions encore trop présentes dans les foyers avec des conséquences qui peuvent être très lourdes selon Céline Kellen, directrice générale de l'association.
On apprend la violence comme un schéma, comme on apprendrait une langue étrangère ou une petite comptine, sachant que le cerveau ne fait pas la différence dans ses apprentissages entre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Psychologie en fait, on vient complètement bousculer la boussole intérieure puisque l'être humain qui a subi des violences petit n'a plus la capacité de se connecter à ses émotions. Ça fait des adultes qui ont boussole intérieure complètement déconnectée et qui sont en mal-être en fait, hein, donc potentiellement des dépressions. Ça génère de la délinquance, évidemment de la reproduction de la violence sur ses propres enfants ou la violence conjugale en tant qu'agresseur ou victime. Bref, ça bouleverse complètement toute une société.
Les parents qui ne devraient pas non plus mettre leurs enfants, du moins les plus petits, devant les écrans. Un rapport remis aujourd'hui à Emmanuel Macron préconise d'interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans car ils peuvent avoir des effets sur le sommeil, provoquer de l'obésité, voire de la myopie. Les experts proposent aussi l'interdiction du téléphone portable aux moins de 11 ans et l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Gérard Depardieu convoqué devant la justice après une journée de garde à vue hier. L'acteur sera jugé en octobre prochain après les plaintes de 2 femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Les faits auraient été commis lors du tournage du film Les volets verts de Jean Becker en 2021. Gérard Depardieu, lui, a pour l'instant toujours nié les faits. 1,1 milliard d'euros pour sauver Atos. L'entreprise de tech française en grande difficulté a revu à la hausse ses besoins de financement. Bruno Le Maire a annoncé que l'État avait l'intention d'acquérir toutes les activités souveraines du groupe. Des activités liées à la sécurité, comme l'explique Jean-Pierre Molle, directeur adjoint de l'IRIS.
Pour ce qui est de la dissuasion, c'est quelque chose de toute façon qu'on n'aurait pas vendu à l'étranger. Pour les autres activités, c'est plus la sécurité d'approvisionnement. On veut être sûr que les armées françaises continuent à pouvoir être servies par l'acheteur. On peut très bien imaginer qu'elle arrête de travailler sur ces questions-là et donc on perdrait des capacités au niveau militaire. Donc on veut être sûr que l'entreprise poursuit son activité. Et on considère qu'il est quand même préférable pour ces activités qui sont quand même assez sensibles de les conserver en France.
Atos est également impliqué dans l'organisation des Jeux Olympiques, notamment dans la cybersécurité. La région Île-de-France suspend quant à elle ses financements à Sciences Po Paris. La présidente de la région, Valérie Pécresse, a décidé de ne pas affecter la subvention de plus d'1 million d'euros à l'école tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies. Des manifestants pro-palestiniens bloquent depuis vendredi l'accès à l'établissement en soutien à la Palestine. Va-t-on encore une fois souffrir de la canicule cet été? Météo France a publié son bulletin de tendance pour les 3 mois à venir. Et visiblement, il va faire très chaud, Baptiste Berthelin.
Oui, même si ces prévisions ne peuvent pas être totalement fiables compte tenu du délai. C'est le scénario le plus probable, selon Météo France, qui pense qu'il y a de fortes chances que les températures soient plus élevées que la normale entre mai et juillet. L'organisme est davantage sûr de son coup pour le sud. 70% de chances qu'il fasse plus chaud que la normale sur le bassin méditerranéen. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des canicules à répétition. Il est encore trop tôt pour le dire, mais les températures devraient être plus élevées que la moyenne. C'est de toute façon déjà le cas depuis plusieurs mois dans l'ensemble de l'Hexagone.
Concernant les précipitations, aucun scénario n'est privilégié pour l'instant. Le Petit Larousse avance avec son temps et comme chaque année, de nouveaux mots vont intégrer le dictionnaire édition 2025 qui sortira le 22 mai. 150 nouveaux termes et expressions parmi lesquels, par exemple, zéro déchet, méga bassine, fast fashion ou encore platiste. Ceux qui pensent que la Terre est plate, 40 personnalités feront aussi leur entrée, parmi lesquelles Beyoncé, Mylène Farmer, Omar Sy ou encore le footballeur Antoine Griezmann. C'est la fin de ce journal. Passez une très bonne matinée avec Sud Radio.
Et Antoine Dupont également. Merci beaucoup Marie.
Le Grand Matin Sud Radio, 6h30, 7h, Patrick Roger, Maxime Trouleau.
6h35 sur Sud Radio, l'heure de retrouver Patrick Roger.
Bonjour,
Patrick.
Mon cher Maxime, bonjour à toutes et à tous. Oui, oui, vous avez dit Dupont.
Oui.
Bah, faut pas l'oublier tout
dans
de même.
Dans le dictionnaire.
Quoi. Dans le dictionnaire, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué autre chose? Enfin, on en reparlera peut-être tout au long de ce.
Il y avait Antoine Griezmann aussi dans le
Antoine
dictionnaire.
Antoine Griezmann, c'est ça.
Oui, j'ai plus exactement les termes.
Il y a toujours aussi des expressions qui arrivent, quoi, bien sûr.
Un peu farfelu parfois.
Ouais, un peu farfelu. Il est 6h36 minutes. Tout au long de ce grand matin, nous allons continuer de nous poser beaucoup de questions autour de l'actualité, de vous raconter cette actualité. Par exemple, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la transmission de la grippe aviaire à l'homme? Il y a eu un cas récemment aux États-Unis et il y a eu un grand dossier, par exemple, dans le journal La Dépêche du Midi hier. Nous aurons un des meilleurs spécialistes qui sera avec nous tout à l'heure à 7h10. Nous ferons un point. Beaucoup d'autres questions comme évidemment, vous l'avez rappelé, hein, la lutte contre la violence des jeunes, avec ce qui s'est passé à Châteauroux, mais également ailleurs. Est-ce que les mineurs doivent être jugés comme les majeurs? Et à partir de quel âge? Ben, c'est l'une des questions que nous posons, bien sûr, parce que ça revient en permanence sur le devant de la scène, avec parfois des adolescents de 13, de 14, ouais, de 15 ans, de 16 ans, et bien sûr, qui sont impliqués dans des faits de violence aussi graves, voire donc mortels, bien sûr, meurtriers, comme s'ils étaient des adultes. Donc que faut-il faire? Nous en parlerons bien sûr tout au long de ce grand matin, ainsi qu'avec nos éditorialistes qui seront là. Et évidemment, on va parler aussi de la pluie. Parce que, vous avez vu, il y a le grand retour de la pluie du côté des Pyrénées-Orientales. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Rémi André avec nous ce matin pour pouvoir, évidemment, nous en parler.
Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai.
La vie en vrai. Et les Jeux Olympiques de Paris. À Nontron, en Dordogne, on est prêt. C'est la sellerie CWD qui va équiper les cavaliers des JO à Paris. Nous sommes avec Alexandra Bordeaux-Nadeau. Bonjour.
Bonjour, ravi d'être avec vous ce matin.
Ben, oui, nous également, vous êtes responsable du site de vente hein, à Nontron justement. Vous êtes l'un des leaders mondiaux de la sellerie, hein, c'est ça?
Oui, exactement, tout à fait.
Bon, qu'est-ce que ça représente pour vous de participer aux JO de Paris?
Bah, les JO de Paris, pour nous, c'est un très gros step, on va dire, qu'on attend avec impatience. On a quand même trois choses qui sont, on va dire, importantes pour nous. La première chose, ça va être déjà le partenariat entre Arioneo et la Fédération Française d'Équitation. Donc Arioneo, c'est une des marques du groupe LIM, du coup, qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions qui sont dédiées à la performance et à la santé des équidés.
Ouais.
Donc, de ce fait, Equisim équipera tous les chevaux qui participeront aux JO. Donc, pour un peu vous expliquer, c'est un outil de mesure et de diagnostic pour assister les vétérinaires. Donc, c'est vraiment une belle vitrine pour nous.
Ah,
c'est,
et là, vous utilisez de nouvelles technologies pour ça, en fait, quoi, non ?
Exactement, tout à fait. C'est une nouvelle technologie qui sont au service du bien-être du cheval, du coup, qui reste vraiment un de nos axes de développement principal et une des valeurs du groupe LIM qui sont importantes.
Mais pourquoi ? Parce que, très concrètement, comment ça se passe, justement, pour pouvoir améliorer ce bien-être du cheval ? La selle note les réactions des animaux, du cheval ?
Alors, Equisim, en fait, c'est une solution qui est un appareil, en fait, qui équipera les chevaux, du coup, donc qui a été développé, du coup, par toutes les personnes qui travaillent chez Arioneo et qui vont, du coup, aider ces vétérinaires à diagnostiquer des asymétries locomotrices et s'assurer, en fait, du bien-être de cheval tout au long, des épreuves.
Oui. Ce n'est plus une selle, on est dans de la haute technologie. Alors, moi, je suis habitué, aux anciennes selles à cheval, mais alors, dites-moi là.
Alors, l'avantage aussi qui fait qu'on est aussi leader aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on a développé aussi des selles avec des arçons en matériaux composites. Du coup, on a été leader sur le marché pour développer ça. Donc, c'est plus un arçon classique en bois avec une structure métallique. C'est vraiment des arçons développés avec du carbone.
Oui.
Donc voilà, qui permet d'améliorer la performance du cheval et du cavalier. Donc ça fait partie des nouvelles technologies qui permettent d'aller plus loin, tout en gardant nos savoir-faire ancestraux, puisque la sellerie, ça reste quand même des savoir-faire traditionnels.
Ouais.
Et nos selliers, du coup, qui sont des artisans, pour le coup, qui fabriquent ces petits bijoux sur mesure tout au fil des jours.
Ça reste artisanal, c'est pas produit à la chaîne. Exactement. Où est-ce que c'est fabriqué ? Est-ce que tout est fabriqué sur votre site en Dordogne ?
Alors, notre site de Dordogne est dédié à la partie service après-vente, et après on a notre site de fabrication qui est Tabidar au Pays Basque.
D'accord. Ah, c'est au Pays Basque. Tout est... D'accord. Où ça précisément, vous avez dit ?
À Bidar, au Pays Basque.
Oui, bien sûr.
Exactement.
Ouais, donc, c'est fabriqué là-bas, tout est fabriqué là-bas, et ensuite, c'est vendu par votre site en Dordogne.
Voilà. Exactement. Nos selles sont faites vraiment sur mesure, et Equisim, dont je vous parlais, sont fabriquées, eux, à Bordeaux, sur nos sites, notre hippodrome, à côté de l'hippodrome du Bouscat.
D'accord. Est-ce que vous allez équiper tous les cavaliers de ces JO, ou simplement une partie ?
Alors malheureusement non, on n'équipera pas tous les cavaliers, il y a à peu près 200 cavaliers qui vont participer du coup à ces JO, mais on a quand même une trentaine de cavaliers qui vont normalement monter avec nos selles, donc c'est déjà une belle partie pour nous.
Oui, c'est les cavaliers français plus quelques autres quoi.
Oui, exactement. Ben, évidemment, c'est cavaliers mondiaux, hein, pour le coup. Donc, il y a vraiment toutes les nationalités, du coup, qui vont utiliser nos selles, pas que des cavaliers français.
Oui, oui. Y a une grande concurrence mondiale sur la sellerie.
Oui, il n'y a pas beaucoup de concurrents, on va dire. On n'est pas non plus très très nombreux dans le monde de l'équitation au niveau du sur-mesure. Donc là, nous, on est positionnés. Mais aujourd'hui, on regroupe quand même, le groupe LIM regroupe déjà quatre grandes marques. Donc entre CWD, Devoucou, Buté et la marque Albion récemment, qui est une marque de sellerie anglaise.
Mm-hmm.
Mais voilà, il n'y a pas non plus pléthore de concurrents sur la partie équitation.
Ouais. Et est-ce que vous vendez aussi à l'international beaucoup ?
Bien sûr, évidemment, on a plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export, dont une grosse majorité sur la partie des États-Unis. Donc c'est vraiment un axe de développement très fort pour nous.
Bon, dites-moi, ça coûte combien une selle comme ça, ultra technologique là ? Ça doit être un sacré prix, non ?
Ah bah effectivement, si vous deviez donner un prix, est-ce que vous seriez en capacité
alors,
de me dire ?
Alors non, bah justement, je m'interrogeais, je me dis, une selle de cheval qui est pour les Jeux Olympiques, ça doit être, c'est quoi ? C'est du 4-5 000 euros, du 7 000 euros ?
Oui, exactement.
Ah bah alors,
vous êtes dans le vrai.
C'est ça, c'est une fourchette de 4 à 7 000 euros, quoi, à peu près.
Oui, exactement. Alors, on va plutôt commencer, vers les 4000, et puis ça peut monter jusqu'à 5000, 6000, voire plus, en fonction des options qui sont choisies par le cavalier, du coup.
Bon, les commandes sont prêtes pour cet été ? Tout va bien ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont déjà équipés, même.
Ah, ils sont on travaille déjà avec. J'imagine, pour les répétitions, Pour les répétitions.
Tout à fait. Ouais. Bah, en fait, c'est nos cavaliers élites qui sont vraiment notre vitrine, du coup, qui utilisent nos selles et qui font notre renommée. Et oui, voilà, ils sont déjà équipés pour déjà travailler avec, pour le coup.
Ouais, bien sûr. Il y a d'autres accessoires ou pas ?
Alors, non. On va faire tout le petit matériel, tous les petits équipements qui sont liés du coup à l'équitation. Donc ça va être les étrières, les bridons, les sangles, tout ce qui tourne autour du cheval et de l'équipement du cavalier. Donc voilà, des petits accessoires en cuir du coup qui viennent aussi pour monter les rênes, les bridons, les guêtres, tout ce avec.
Dernière question, Alexandra Bordonado. Oui. Vous visez vous aussi des médailles ? Indirectement, bien sûr. Vous en avez déjà obtenu des médailles olympiques avec vos selles,
Exactement. On en comptabilise 18 aujourd'hui, donc on est quand même hyper fiers, on va dire, de ça. Mais oui, on va souhaiter surtout de remporter plein de belles médailles fin juillet, début août à Versailles, du coup, avec toutes ces épreuves. Et on sera vraiment très contents de regarder tout ça.
Oui, complètement. D'autant qu'on a une bonne équipe de France depuis des années sur les sports équestres. Merci beaucoup. Alexandra Bordonado, donc vous êtes installée à Nontron en Dordogne, et on a compris que les selles étaient fabriquées à Bidart, au Pays Basque. J'en profite pour saluer tous les auditeurs dans la région, et puis du côté de Bordeaux. Il est 6h44, merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Ça s'arrange un petit peu pour ma voix, mais c'est pas encore complètement ça. C'est assez difficile, c'est long, m'a dit le médecin. Dans un instant, nous allons poursuivre les grands titres de l'actualité, et puis notre série aussi. Les voitures chinoises, est-ce que c'est incontournable? Est-ce qu'elles vont déferler dans les garages de France? On va voir, alors qu'il y a un gros débat aussi actuellement sur les vélos. C'est la même chose parce que la fabrication et la filière de vélos, tout vient aussi des pays asiatiques. Allez, 7h15, bon réveil.
Bonne journée avec Sud Radio. Patrick Roger de retour avec vous dans un instant.
Visio Confucius, tu vois ? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Sud Radio Saint-Laurent-du-Var
97.9
Sud Radio.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi les miens ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi, et en plus il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite.
Après il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude sur un long trajet, une pause toutes les deux heures?
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Le Grand Matin Sud Radio, 6h30, 7h, Patrick Roger, Maxime Troulot.
Il est 6h46, bon réveil à vous, les grands titres de l'actualité avec vous, Maxime Troulot.
Gérard Depardieu jugé en octobre prochain pour deux agressions sexuelles présumées sur un tournage en 2021. L'acteur déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire a passé la journée d'hier en garde à vue. L'auteur présumé de l'agression mortelle de Mathis, 16 ans, à Châteauroux, a été mis en examen et écroué pour meurtre. Sa mère âgée de 37 ans a elle aussi été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Des insultes racistes seraient à l'origine du drame. La région Île-de-France suspend ses financements à Sciences Po Paris après des manifestations pro-palestiniennes. Mouvement qui a gagné la Sorbonne hier. Et puis le football, début des demi-finales allées de la Ligue des Champions. Ce soir, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid à 21h avant le match demain entre Dortmund et le Paris Saint-Germain.
Hashtag, on en parle, Maxime, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, ça continue. Oui. Elles font de nouveau du bruit sur les réseaux sociaux. Hein. C'est à propos, évidemment, de Danse avec les Stars. Oui. L'une qui accuse l'autre presque de racisme.
Ah oui, c'est assez incroyable. Une scène étonnante hier où les deux ex-candidats donc, de Danse avec les Stars s'affrontaient via deux médias interposés, TPMP d'un côté, Quotidien de l'autre. Inès Reg d'abord, qui a confirmé qu'une main courante avait été déposée par Natacha Saint-Pierre contre elle et son équipe. « Toi et ton équipe me faisaient peur », aurait-elle lancé le jour d'une dispute.
Elle parle de l'équipe, c'est qui l'équipe ?
Et donc elle parle de mon équipe. Florent et Martiniquet, Yacine et
arabe. Camélia est arabe aussi, mais ça ne se voit guère. Et Lulu, Lulu quoi, c'est Lucille quoi, tout va très bien pour Lulu.
Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez toujours qu'il y avait des relents racistes?
Non, je pense juste que Natacha était très intelligente, elle a voulu gagner,
qu'elle a fait du buzz pour justement gagner.
Bah oui, non mais c'est sûr.
Voilà, de son côté, Natacha Saint-Pierre confirme cette main courante et accuse Inès Reg de violence verbale de son côté.
Elle était très agressive, elle a eu des propos qui font peur, et là ça a été violent. J'ai pleuré après. J'ai appelé ma manageuse un peu inquiète.
Voilà, une histoire qui peut paraître futile, évidemment, mais qui passionne les gens. Hein. Les vidéos ont été vues des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les deux camps qui s'affrontent par tweet interposé. Hein. C'est assez impressionnant, des milliers de commentaires.
C'est quand même complètement incroyable, quoi. Parce que c'est parti de pas grand-chose. Bon, alors, cette petite dispute, bien sûr, en coulisses, mais à ce point-là, et ça passionne. Je sais que ça passionne, en fait, beaucoup les... Alors, évidemment, parce qu'il y a aussi de la passion pour Danse avec les stars. C'est un peu ça, évidemment, derrière.
Beaucoup de jeunes aussi.
Mais beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes comme
depuis
nous.
Depuis des semaines.
Évidemment, évidemment, comme nous. Il est 6h49. C'est bon à savoir, les voitures françaises, les voitures chinoises, bah oui, tiens, petit lapsus. Les voitures chinoises vont-elles déferler dans les garages de France? Notre série sur la Chine ce matin en compte à rebours avant la visite du président chinois la semaine prochaine. Et puis, juste après le voyage d'une délégation de 80 personnes la semaine dernière organisée par Mobilience, c'est tous les acteurs de la filière auto, avec Marc Faury qui était du voyage, président de l'un des plus grands groupes de France, dont le siège est à Brive. Bonjour Marc Faury.
Oui, bonjour Patrick Roger.
Alors Marc Faury, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu, vous, en Chine?
Bah écoutez, beaucoup de choses, un voyage absolument passionnant.
Ouais.
D'abord, la fierté des Chinois, puisque les Chinois, depuis l'année dernière, sont le premier marché automobile mondial, ils l'étaient déjà, le premier pays producteur, et depuis l'année dernière, le premier pays exportateur. Donc beaucoup de fierté. Mais surtout, ce que j'ai retenu aussi, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la signature de M. Luca de Meo sur LinkedIn,
c'est patron de Renault.
Voilà, le patron de Renault, c'est car enthousiaste. Ouais. Et bien, j'ai trouvé un pays enthousiaste de l'automobile, dans la rue, avec un parc automobile très récent, dans les allées du salon, avec des jeunes, des influenceurs, enfin tout un pays qui aime l'automobile, ce qui est vraiment très rafraîchissant pour nous.
Ouais,
et puis ensuite, ce que j'ai appris aussi ensuite, là, c'est la structure de l'industrie automobile en Chine, puisqu'il y a des entreprises étatiques, des entreprises capitalistes qui se font concurrence, des start-up. Il y a ce mélange détonnant entre une économie planifiée et une économie ultra-capitaliste, et avec des gens qui réinventent l'automobile, mais avec une grande concurrence entre eux. Et puis, le troisième point, c'est la sensibilité écologique des Chinois, chose qu'on n'imagine pas forcément vu de France. Et je retiendrai ce que nous a dit Jean-Pierre Raffarin sur l'humilité qu'il fallait avoir vis-à-vis des Chinois. Vous savez, c'est des gens qui sont aussi intelligents que nous et qui travaillent deux fois plus. Et ben ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont aussi cette sensibilité écologique, ce que j'ai découvert, puisqu'on on a souvent cette image du Chinois qui se moque un peu de la planète. Et je pense que c'est des gens qui vont aussi arriver dans le bon sens à ce niveau-là.
Pourquoi
c'était une surprise aussi pour moi.
Marc Faury, pourquoi c'était important pour vous d'aller sur place?
Mais pour découvrir tout ça, pour découvrir ce monde, pour découvrir tous ces constructeurs, de savoir à qui allons-nous affronter dans l'avenir, quelle technologie. Et j'avoue que c'est assez impressionnant au niveau des constructeurs. On a des constructeurs qui aujourd'hui n'existaient pas il y a 3 ans, qui aujourd'hui se créent, de voir un peu tout cet écosystème et de comprendre un peu nos constructeurs européens qu'on représente très majoritairement bien sûr aujourd'hui, quelles sont leurs positions par rapport à tout ça.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de cette dynamique chinoise, une forme de rouleau compresseur, ou est-ce que il va falloir faire avec? J'ai vu par exemple ce matin, il y a un dossier dans les Échos qui est particulièrement intéressant, qui montre que tout a changé dans l'Europe de l'Est depuis des années, et que justement cette Europe de l'Est et l'Europe centrale est devenue la base arrière de l'industrie continentale et tête de pont de la Chine. Donc comment réagir face à ça?
Bah écoutez, déjà la première chose, c'est en prendre conscience. Et oui. Je pense que notre voyage en fait partie. Mmh. Il faut que les acteurs de la filière automobile française prennent conscience de ce qui se passe là-bas. Et c'est pas toujours le cas. Mmh. Et en premier lieu, nos constructeurs. Il faut que nos constructeurs européens prennent conscience de ça. Je vais reparler de Renault puisque c'est un constructeur que je connais bien. Ben c'est rassurant de voir que Luca de Meo était en Chine, essaye de nouer des partenariats avec les Chinois. Mmh. Ils savent, ils sont conscients du retard qu'ils ont aujourd'hui et ils mettent tous les moyens pour justement le combler. Ouais. Et puis après, il faut bien sûr compter sur ses forces. Et puis aussi savoir que les Chinois ont aussi leurs faiblesses. Hein. Ouais. Il y a des choses qu'ils savent pas, puisque c'est un marché récent, le marché automobile. Le marché automobile en Europe est un marché ancien, avec des pratiques qui sont différentes, un marché compliqué, 27 marchés, c'est pas un seul marché unique. Ouais. Donc tout ça, c'est pas forcément facile à appréhender. Et il faut se retrousser les manches et puis se battre.
Quoi. Oui. Et Marc Faury, pour vous, évidemment, c'est un peu incontournable, c'est ce que je sens, mais est-ce que ces modèles vont débarquer dans vos garages ?
Alors, je suis déjà distributeur, un petit distributeur, mais je représente déjà la marque MG, MG qui est une marque chinoise, et on a vu grâce au bonus écologique et avec leur véhicule électrique très bien placé, qu'ils avaient fait une très très belle performance en 2 ans de présence. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus compliqué compte tenu de la suppression du bonus pour les véhicules qui viennent de Chine. Ils vont trouver des distributeurs, mais en fait le problème c'est de faire le tri. Quand vous avez 130 constructeurs chinois, il y en a une vingtaine qui veulent débarquer en Europe. Quels vont être les bons ? Parce que on peut imaginer qu'il y aura une consolidation dans ce secteur d'activité, que tous ne vont pas rester. Ouais. Il y en a déjà certains qui sont en difficulté, donc il faut savoir miser sur le bon cheval et c'est pas gagné.
Ouais. Et l'électrique incontournable, hein, quand on voit évidemment ce qui se passe là-bas, même s'ils n'abandonnent pas d'autres technologies.
Hein. Oui, tout à fait. Je pense que l'électrique, on va y aller inévitablement du fait des progrès constants que nous voyons sur la voiture électrique en matière de batterie, en matière de connectivité, en matière de voitures intelligentes. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont incomparables. Ouais. Et on l'a vu sur ce salon de Pékin avec des progrès incroyables. Et je pense que nos voitures thermiques nous paraîtront dans quelques années bien anciennes et bonnes à changer.
Oui, oui. Merci Marc Faury. Et je rappelle en un mot, vous, le groupe Faury, c'est entreprise familiale, hein, née à Brive-la-Gaillarde. Oui. Et étendue, ça va d'où à où votre groupe dernier
là, c'est très très vaste puisque nous sommes sur des territoires très vastes et très très pauvres, je dirais, très peu peuplés.
Non,
donc,
pas
on
pauvre.
Pour une richesse d'hommes, ouais. avec on va des Landes en passant par Brive et on remonte jusqu'à Nevers. Donc vous voyez, une grande diagonale centrée autour de Brive, de la Nouvelle-Aquitaine, du Grand Sud-Ouest, je dirais, qui s'étend un peu vers l'Auvergne.
Voilà, tous nos auditeurs qu'on aime justement aussi dans toutes ces régions. Merci Marc Faury d'avoir été avec nous et on va poursuivre toute la semaine notre série et nous en reparlerons aussi la semaine prochaine avec la visite du président chinois qui ira d'ailleurs dans les Pyrénées aussi, passer une petite journée avec Emmanuel Macron. Il est 6h56. 30 avril, ce jour-là, Maxime Trouleau.
Les anniversaires du jour avec Jacques Audiard, 72 ans ce matin, Charles Berling, 66 ans, ou l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, 69 ans, celui, souvenez-vous, qui avait pris de court tout le monde le 28 août 2018, lorsqu'il annonçait alors sa démission au micro de France Inter.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Nicolas Hulot qui avait été l'une des surprises lors de son entrée au gouvernement le 17 mai 2017. Il a également été touché par des affaires d'agression sexuelle et de viol, mais n'a jamais été condamné, notamment pour des questions de prescription. Et puis les anniversaires du jour, en ce 30 avril, la naissance d'une célèbre série télévisée diffusée pour la première fois aux États-Unis le 30 avril 75, il y a 49 ans, indice. Vous allez reconnaître, attention.
Ah oui.
Starsky et Hutch, 4 saisons, 92 épisodes pour la série qui a été diffusée pour la première France en 1978, Patrick.
Oh oui, et allez, 6h57 dans un instant, la météo.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Sud Radio Sarlat.
107.1.
Sud Radio.
Calcul d'un nouvel itinéraire. Arrivée prévue dans 20 minutes. Ah non, vous êtes arrivé. Désolé, ce télépéage a faussé mes données. Comme quoi, dans la vie, on croit des choses et puis en fait, non.
Avec le Pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi les miens ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi, et en plus il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude, sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures.
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
La météo Sud Radio.
Avec usineonline.com, votre pergola, store, carport, menuiserie et portail, direct usine en promotion moins 30% et livraison offerte. Cliquez, commandez et profitez sur usineonline.com.
Rémi André, habituellement dit, on cherche un coin de ciel bleu. Et bien là, on cherche un coin de ciel gris, gris et chargé. Et c'est le cas du côté des Pyrénées-Orientales, où on pousse des cris de joie quasiment. Hein.
Oui, deux ans où il n'y avait pas eu autant de pluie. En fait, on a dépassé les 60 mm, donc cela donne une pluie assez conséquente. Malheureusement, ce ne sera pas assez pour regarnir les nappes phréatiques, mais malgré tout, là, on est quand même très content sur le Roussillon d'avoir...
Ça va se poursuivre un petit peu, là.
Oui, alors on en a encore pendant 2 jours, mais ensuite, ouais. Eh bien, on devrait